un rapport de 1 à 10 sur le coût du travail. Si on investit sur un outil de production, bah, ce rapport va s'inverser. Toutes les questions de mutation énergétique avec le coût du transport va aider à la localisation, etc. Donc aujourd'hui, les industriels, ça l'ont bien compris. Et pour nous, c'est important de garder nos clients. Certes, je travaille, Vika est un groupe international. Pour ma part, je suis responsable des activités en France. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de garder mes clients en France. Et pas simplement que les groupes internationaux se développent aux quatre coins du monde. Je leur souhaite, mais je souhaite qu'ils gardent des choses en France. Et donc, le mouvement qui est en train de se faire permet également de pérenniser nos activités.
Alors, pour vous, le coût du travail, donc, comment est-il positionné en ce moment par rapport aux autres pays ?
Tout va dépendre de quoi on parle. C'est-à-dire que si aujourd'hui on parle de produits technologiques sur lesquels des produits où les coûts de main-d'œuvre sont très bas ne viennent pas nous chercher, on n'a pas de problème sur le coût du travail. Je pense que là, une fois de plus, il n'y a pas une réponse. C'est-à-dire que certes, votre travail est plus valorisé lorsque vous êtes sur quelque chose que les autres ne font pas que lorsque vous êtes sur quelque chose qui est complètement bagarré où tout le monde peut le faire. Et donc, lorsque tout le monde peut le faire, bah, il faut que le coût du travail pèse moins. Et la façon qu'il pèse moins, bah, c'est qu'on utilise d'autres moyens. Ce n'est pas de baisser les salaires, c'est qu'on utilise d'autres moyens pour le faire. Donc aujourd'hui, cette question de compétitivité, c'est aussi faire en sorte que les entreprises bougent leurs lignes et investissent dans ce cadre-là. Donc il y a une notion, pour que les entreprises le fassent, il y a une notion de confiance. Il faut pouvoir se projeter dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un investissement, entre le moment où vous investissez et le moment où ça vous rapporte, on revient dans une notion de temps, donc il y a une notion de confiance. On a besoin du pouvoir public pour nous accompagner, nous protéger. Le politique est très important dans ce cadre-là. Mais je suis optimiste parce que je vois les choses bouger. Il y a quelques années, je n'avais pas la même vision de l'industrie en France qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie en France, on a enfin compris qu'on avait besoin de créer de valeur, qu'on n'allait pas pouvoir tous vivre autour du tourisme et autour de la vie sociétale, et qu'on avait besoin de créer de la valeur, et qu'en création de valeur, on avait besoin d'entreprises.
C'est vrai que depuis quelques mois, on remet l'industrie au premier plan de la France, et il était temps, parce que ça fait 30 ans qu'on avait plutôt tendance à oublier l'industrie.
Pour vous donner un chiffre simple, dans la création de la valeur dans notre pays, l'industrie représentait il y a 30 ans 27% de la création de la valeur de la France. Aujourd'hui, l'industrie représente 12%. Voilà. Je crois qu'avec ce chiffre-là, on résume plein de choses. On a divisé le poids de notre industrie. On a perdu plus d'un million d'emplois autour de l'industrie au cours des 30 dernières années. Sur la même période de temps, nos voisins allemands avaient, il y a 30 ans, donc le poids de leur industrie, c'était 28%. Aujourd'hui, dans leur économie, c'est 27%. Donc, on n'est pas, quand on parle du coût du travail, c'est pas simplement une logique du coût du travail, il y a aussi une volonté de le faire. Et on a besoin également, pas simplement de la volonté des uns et des autres, mais je reviens à mon propos de tout à l'heure sur le consommateur. C'est-à-dire que dans bon nombre de cas, nos voisins en Allemagne ont une énorme chance par rapport à nous. C'est que lorsqu'un consommateur va devant un produit et qui voit que c'est fabriqué dans son pays, il est convaincu que ce sera mieux que si ça vient d'ailleurs. Nous, dans un bon nombre de cas, on a l'impression que si on le prend chez nous, bah non, la qualité, c'est pas bien, parce que Renault, ils savent pas faire des voitures. Je suis pas démagogique hein, quand je parle de cet exemple concret, mais en tout cas, c'est dans l'inconscient, en disant « bah non, c'est pas ça ». Et si je veux de la qualité, bah on sait que la qualité, elle est ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des vrais savoir-faire technologiques, on a un certain nombre de choses, on est créateur. Il faut simplement qu'on en ait conscience. Mais c'est pas simplement, comme je le disais, sur le terrain d'actualité, en opposant les uns les autres. On a besoin des industriels qui croient, on a besoin du politique qui nous appuie, on a besoin également du consommateur qui soit convaincu que ce qui se passe chez nous et en Europe, c'est bien, et que si on veut protéger tous et continuer à bien vivre ensemble, c'est simplement en consommant ce qu'on fait en Europe qu'on le fera, et pas simplement en oubliant.
Donc finalement, pour vous, le gouvernement devrait inciter à relocaliser des industries qui sont parties.
Moi, je pense aujourd'hui que arrêtons de demander tout au gouvernement et repartons, comme le disait M. Poniatowski à l'instant, repartons du concitoyen. Et donc, qui a le contact avec le concitoyen? C'est pas le président Macron, parce qu'il fait une intervention tous les deux mois à la télé. Le maire, il est tous les jours dans sa ville. Le député, il est tous les jours pas dans sa ville, mais
dans son département,
dans sa région. Donc aujourd'hui, on a besoin de recréer cette proximité, mais on a besoin de défendre ce modèle-là. Et plus que de le défendre, faut en être convaincu. Dans l'exemple que je prenais, n'ayez pas le sentiment que c'est le président allemand, qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, je vous rappelle que si on demande le nom du président allemand, je pense que pas grand monde va savoir qui c'est aujourd'hui, qui a demandé aux Allemands de consommer allemand. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on demanderait, nous, au président ou au gouvernement, de décider pour les concitoyens. Non, les concitoyens, je pense qu'ils sont adultes, ils sont responsables. Il faut les informer par rapport aux enjeux, et il faut les sensibiliser sur quelque chose qui paraît évident. Mais c'est tellement évident qu'on n'ose pas le dire. Voilà. Donc je pense que ça repart que de là, et à nouveau, j'ai envie de dire, de la communication.
C'est de la communication. Merci beaucoup, Clonel Massiès. Alors, vous étiez à Polutech avec justement l'association du réseau Mesure. Et donc, j'ai envie de vous demander à tous les deux, avec Estelle Duflo, un petit peu, comment s'est passé Polutech, quels sont les enjeux, justement, pour la mesure.
Alors, de façon générale, il faut...
Donc, Estelle Duflo.
Bonjour. Il faut resituer Polutech dans le plan d'action de l'association, puisque l'enjeu de l'association est bien d'accompagner ses adhérents dans leur développement, notamment par le biais d'actions mutualisées, et de développer des synergies collaboratrices à valeur ajoutée. Donc, Polutech en est un des exemples, puisque Polutech est un salon dans le domaine du développement durable qui, comme Colonel Massiès l'a expliqué, regroupe un certain nombre de domaines très, très différents. Hein, et donc, le développement durable est un des enjeux pour les sociétés de mesure et d'instrumentation. Et donc, la démarche de l'association est d'accompagner ces entreprises dans une démarche mutualisée afin de valoriser leur savoir-faire et leurs compétences, afin de les aider à communiquer mieux, à communiquer de façon... avec plus de poids qu'elle ne pourrait le faire toute seule. Donc, en l'occurrence, pour ce salon, un exemple très très simple, puisque 21 adhérents étaient présents. Cela représentait 300 mètres carrés, ce qui est assez important pour ce type de salon, même si Polutech est un salon très important, puisque c'est plus de 2200 stands sur Polutech.
Oui, ça se passe à Lyon, hein.
Exactement, ça se passait à Lyon la semaine dernière. Donc la démarche est vraiment d'avoir une communication amplifiée, une démarche mutualisée, favoriser les synergies. Aujourd'hui, la solitude du chef d'entreprise, c'est pas un vain mot, donc rompre la solitude du chef d'entreprise est aussi une démarche importante. Depuis le début de la matinée, nous parlons d'échanges, nous parlons de recherche de consensus, d'amélioration continue. Il est important de pouvoir échanger avec ses pairs, de pouvoir s'informer, de pouvoir mieux communiquer. La plupart de nos adhérents sont plutôt des PME-TPE. Ils n'ont pas toujours les ressources suffisantes en interne pour communiquer à tous les niveaux. Et notre rôle est de donner aussi plus d'ampleur à cette communication.
Est-ce que ces entreprises travaillent ensemble, mais en même temps, est-ce qu'elles coopèrent, comme vous l'avez dit
tout à
l'heure ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est dans une démarche de synergie à la fois entre les adhérents et également entre les adhérents et les différents acteurs économiques territoriaux. Nous organisons notamment des rencontres avec des grands comptes cette année, comme le CEA, comme Renault Racing Sport, comme la RATP, la SNCF. Mais il y a également beaucoup de collaboration économique entre les adhérents. On est dans une recherche de solutions globales aujourd'hui en termes de mesures. Donc il est important que chacun des adhérents puisse communiquer sur son savoir-faire, le faire connaître et ainsi pouvoir répondre ensemble à des demandes.
Alors on parle de l'industrie 4.0 et on parle aussi en ce moment de plateforme, vous l'avez nommé Clonel Massiès, de plateforme. Est-ce que les industriels de la mesure ont envie de créer, ou est-ce que c'est dans l'idée de créer une plateforme justement de communication commune? Est-ce que ça peut être envisageable?
Je pense qu'on est plus dans...
Est-ce que ce serait utile?
On est plus dans une logique de communication, de synergie, d'actions très concrètes mutualisées. Par exemple, donc, vous avez parlé d'un salon, mais ça peut être aussi la semaine prochaine, nous organisons une rencontre avec les adhérents de l'AMA, qui est en fait notre homologue en Allemagne. Donc là, on est dans une démarche mutualisée de communication, d'échange. Après, est-ce que l'on parle de plateforme? Je ne saurais pas vous répondre. Il y a des exemples de plateformes techniques sur le territoire, notamment de la CACP. Bon, Aujourd'hui, nous, au sein du réseau, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans une logique de collaboration et de création de valeur ajoutée par la collaboration et la mutualisation.
Je crois Clonel qu'on peut Mathias. Rajouter un point sur, sur le réseau Mesure. Je suis vice-président du réseau Mesure. Notre leitmotiv est de dire par les adhérents, pour les adhérents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose
qui doit se montrer.
Qui arrive décidé par la gouvernance. Non, c'est quelque chose qui arrive par les adhérents, pour les adhérents. Donc pour qu'un projet naisse au niveau du réseau Mesure, il faut qu'il y ait trois industriels qui aient envie de faire quelque chose. À partir de trois industriels qui partagent un projet, ça passe au niveau du bureau et ça passe au niveau de notre organisation et c'est supporté par les permanents du réseau. Cette logique, c'est la logique. Comme le dit très bien Estelle, le tissu industriel français, c'est très souvent des TPE. On oppose les deux choses. Hein. Vous avez un tissu industriel très fort de TPE et de l'autre côté, vous avez des grands groupes. Les grands groupes ont tout staffé en interne pour le faire. Les TPE manquent de moyens. Et si chacun met 10% de son temps sur quelque chose et si on est 15 à le faire, ben voilà, on a trouvé les moyens. Mais pour ça, il faut accepter que je puisse le faire avec un de mes concurrents. Pour ça, il faut accepter que, en tant que chef d'entreprise, j'ai pas toujours raison. Pour ça, il faut accepter l'avis du réseau. Mais l'histoire du réseau Mesure, elle est significative puisque c'est un réseau qui a aujourd'hui 15 ans.
16 ans,
oui. 16 ans, voilà. C'est parti d'un petit nombre et au fur et à mesure des années, ça continue à croître.
Oui, de 5, augmente, vous êtes passé à 140.
Voilà, et on augmente entre notre nombre d'adhérents entre 5 et 10 % par an en restant sur nos valeurs. Alors au début, on se disait, parce qu'avant de s'appeler le réseau de la mesure, ça s'appelait le réseau de la mesure du Val d'Oise.
Vous voyez, aujourd'hui, très local.
On est rentré dans la logique. Hein, donc, on s'est dit, donc on a commencé à raisonner autour du Val d'Oise et des Yvelines. Puis, on s'est dit, on va peut-être regarder de l'autre côté de Paris. Puis, on a des gens de province qui nous ont abordés parce qu'au début, on n'avait pas de démarche proactive. On disait, non, c'est pas facile pour parler les uns les autres si on est à Strasbourg ou à Lyon. C'est pas simple. À partir du moment où on veut, on a commencé à le faire. Puis, comme Estelle le souligne, on commence à discuter avec nos collègues en Allemagne qui partagent les mêmes sujets que nous et on continue à construire des choses. On est vraiment en logique de réseau, autour d'un métier, d'un seuil de compétences, mais en revenant sur un point essentiel, par les adhérents. Donc, le réseau de mesure n'a rien à vendre. Le réseau de mesure a accompagné une démarche, a organisé une démarche, mais n'est pas une société qui va proposer quelque chose.
Merci. Merci beaucoup, Estelle Duflo.
Oui, juste pour rajouter par rapport à ce qu'indique Clonel Mathias, je pense que le point aussi important est l'aspect pragmatique et opérationnel du plan d'action. La méthode est très simple, Clonel Mathias l'a expliqué. Trois adhérents ont une idée, une problématique, on crée un groupe de travail. Ce groupe de travail va créer un plan d'action qui est ensuite proposé à l'ensemble des adhérents. Donc aujourd'hui, comment le réseau s'est développé au niveau régional puis national? Bien sûr, il a été labellisé lors de l'appel à projet Grappe d'entreprise en 2010, qui lui a donné, bien entendu, une ampleur régionale plus importante. Mais son développement aujourd'hui, 37% des adhérents sont situés hors Île-de-France, s'est fait naturellement par le biais des actions. À partir du moment où on est dans une logique vraiment de réelle collaboration productive, je dirais, nous créons un certain nombre d'actions. Et quand je dis nous ne sommes qu'un lien de coordination auprès de ces chefs d'entreprise qui sont les adhérents de l'association. Et ce sont par les actions que le développement se fait.
Mais finalement, est-ce qu'on peut vivre pour une entreprise, quelle qu'elle soit finalement, si on n'est pas en réseau actuellement?
J'ai envie de vous dire non.
Non.
Je pense aujourd'hui... oui et non, c'est si vous êtes dominant sur un marché, je pense que vous faites le marché, vous n'avez pas besoin des autres. Mais aujourd'hui, est-ce que... Non. Les bonnes idées, elles sont partout. Il faut simplement accepter, dans le monde de l'entreprise, mais comme dans plein d'autres mondes, de partager quelque chose. Et pour le chef d'entreprise, le plus compliqué dans la démarche intellectuelle, c'est de se mettre dans une logique de dire « je vais partager mon pouvoir et je ne vais pas décider tout seul ». Mais lorsqu'on le fait et qu'on commence à récupérer des fruits, les gens viennent au réseau en disant « je vais gagner de l'argent ». Ils restent au réseau parce que ça leur apporte d'autres choses d'un point de vue beaucoup plus personnel. Et l'isolement du chef d'entreprise, c'est une vraie réalité. On a besoin de partager, on a besoin d'échanger, on a besoin de s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul à partager cette problématique. Et en réfléchissant à plusieurs, on trouve souvent la solution.
Alors justement, Estelle Desflots, vous avez dit tout à l'heure que c'est un des plans d'action pour l'année à venir, par exemple, c'est une source de faire des économies pour les adhérents sur des actions mutualisées. Alors, donnez-nous des types d'actions qu'on peut mutualiser, justement.
Oui, tout à fait. Ça peut être la mutualisation des achats, notamment. Nous avons un certain nombre de partenariats pour le transport de colis, pour les assurances, pour l'achat de matériel informatique, qui nous permettent de proposer à nos adhérents des tarifs préférentiels sur l'ensemble de ces services. L'ensemble de ces partenariats sont construits grâce à la force, en fait, du réseau, hein, soyons plus forts ensemble, et permettent ensuite individuellement à chacune des entreprises d'en bénéficier.
Merci, merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale avec Jennifer et son titre, son tout nouveau titre, Notre Idylle, et on revient tout de suite avec nos invités du jour.
Te souviens-tu de l'ivresse de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse? Nos larmes au bord de la Seine. Allons voir ce qu'il reste de nos apnées.
Voici de retour au bar de l'économie. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sébastien Poniatowski, maire de l'Isle-Adam, de Clonel Massiès, président des sociétés Vika, ça s'appelle en fait Vika Instruments, et puis d'Estelle Desflots, directrice du réseau Mesure. Et nous parlons donc aujourd'hui, bien sûr, tout ce qui est public, mais aussi l'industrie 4.0. On n'a pas parlé de la formation. Mais avant, peut-être que Sébastien Poniatowski, vous avez une question à poser à Clonel Massiès, je crois.
Oui, monsieur Massiès, mais je vous écoutais attentivement et c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, je vous rejoins complètement. C'est vous disiez le gouvernement ne peut pas tout, l'État ne peut pas tout. Et sur ce point, je dois dire, je suis assez d'accord avec vous. Je pense maintenant qu'effectivement, le gouvernement doit instaurer un climat d'ensemble et doit fixer les grandes règles qui permettent à des entreprises comme la vôtre de se développer de la meilleure façon possible dans notre pays. Ça, je pense que c'est essentiel. Mais je pense qu'effectivement, après, c'est à vous aussi de créer vos débouchés. Et sans doute, vous l'évoquiez d'ailleurs, de travailler avec les élus locaux, notamment que ce soit les régions, les départements, parce que je pense que quand vous allez vous installer dans une région, quelle qu'elle soit, vous allez, j'allais dire, l'étudier aussi en fonction, alors peut-être des employés ou des salariés que vous y trouverez, parce qu'il y a peut-être, on parlait de formation, il y a peut-être des régions qui sont plus aptes à vous permettre de trouver les salariés, les employés qui travailleront dans votre société, peut-être aussi en fonction de vos fournisseurs, de vos clients. Et je me demandais justement comment vous travaillez au quotidien avec les élus, en l'occurrence les élus d'Île-de-France. Voilà, si vous avez des échanges réguliers ou des moments qui vous permettent d'échanger sur vos préoccupations.
Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je suis un chef d'entreprise heureux de ma relation avec les élus.
Ça, c'est bien.
et je vais vous expliquer pourquoi en étant très pragmatique. Une des difficultés de l'entreprise, c'est le recrutement, c'est de faire venir des talents. Et on s'aperçoit qu'avec le temps, les jeunes diplômés n'ont pas les mêmes besoins ou ne veulent pas vivre les mêmes choses que leurs aînés. Il y a quelques années, le rêve de tout jeune diplômé qui s'installait, c'était d'avoir son pavillon en banlieue. Aujourd'hui, en région parisienne, on a beaucoup de diplômés qui veulent vivre dans Paris. Et donc, ils vont chercher un boulot, mais ils veulent vivre dans la ville. Ils ont une relation à la ville qui est totalement différente. Ça veut dire pour une entreprise telle que la nôtre, qui sommes implantés à Herblay, il faut faire venir ses talents. Et autour du transport public, on a un vrai sujet. Donc on a fait quoi ? Je vais vous étonner, c'est que on a monté une association, on s'est mis en réseau d'entreprises. Donc on a créé le réseau, l'association du Parc des Bellevues, la zone d'activité sur laquelle on est. On s'est rapproché de la communauté de communes de Cergy-Pontoise pour voir avec eux, expliquer notre problématique, qui était tout simplement la fréquence des bus dans notre zone industrielle. C'est un travail long, toujours trop long et toujours trop... tout le monde voudrait aller plus vite. Ça nous a mis 3 ans, mais on a multiplié la fréquence des bus dans notre zone industrielle par 2. Donc en mettant d'un côté le politique avec ses moyens, parce qu'il fallait faire des choses, les chefs d'entreprise qui s'engageaient et le...
Le Stivo,
qui adhère au projet. Donc aujourd'hui, on a 2 fois plus de bus. Alors ça, c'est un exemple concret. On a d'autres exemples. Une des difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui sur nos entreprises, et je voudrais pas rouvrir un débat un peu difficile, c'est des invasions de nos terrains par les gens du voyage. Donc ça, c'est une des problématiques. Là aussi, on discute avec les élus pour trouver les meilleures solutions. Faire en sorte que tout le monde peut vivre, mais bon, il y a des libertés individuelles à respecter. Donc aujourd'hui, régulière, et j'ai la chance d'avoir des élus qui nous écoutent et on avance concrètement.
Voilà, donc quand même deux points, enfin un point très important, c'est quand même le transport, vous venez de le dire, finalement, pour attirer les talents, il faut des transports adaptés, et c'est ça qui c'est la priorité, en
absolument.
Fait. Et puis peut-être la formation, parce que vous dites qu'on a du mal à faire venir les talents, est-ce qu'ils sont formés comme vous le souhaitez quand ils y viennent ?
Je suis désolé, je vous ferai la même démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça part de différentes choses, c'est-à-dire que Vika appartient à un syndicat professionnel qui discute avec le ministère de l'enseignement par rapport à des formations dont on a besoin. À un moment, puisqu'on parle d'industrie 4.0, et les jeunes préfèrent être derrière les ordinateurs que derrière les instruments, on en a expliqué que nous, en tant qu'industriels, on avait besoin d'avoir des jeunes formés. L'éducation nationale a continué à investir par rapport à ces formations. Donc aujourd'hui, dans cette démarche, on sait qu'on est accompagné. Et de l'autre côté, l'entreprise doit s'aider elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de l'autre. Et donc, on a un travail à faire avec nos collaborateurs pour continuer à les former dans le cadre de la formation continue. Moi ce que je demande en tant que chef d'entreprise, c'est considérer qu'aujourd'hui, nous sommes des gens intelligents et que nous pouvons faire les choses et qu'on n'a pas besoin de nous contraindre en permanence pour qu'on les fasse. Et si aujourd'hui, on n'est pas intelligent pour les faire, je pense que ces entreprises, elles n'ont pas beaucoup d'avenir. Donc aujourd'hui, laissons la liberté individuelle, laissons aujourd'hui les responsables, arrêtons de raisonner en disant « je vais faire une taxe et je vais réfléchir à votre place ». Non, on sait très bien que si on n'a pas un personnel qualifié, on avance moins vite.
Voilà, c'est donc à l'entreprise finalement de former ou d'aider son salarié à se former tout au long de sa vie.
Absolument.
Merci beaucoup. Il nous reste peu de temps, il nous reste 3 minutes. Donc Estelle Duflo, pour conclure, peut-être on peut rappeler ce qui se passe au mois de décembre quand on est adhérent au réseau Mesure. Donc je crois que le 6, vous avez un enjeu, un dîner. Dites-nous un
tout
petit peu.
Tout à fait. Donc nous travaillons aussi en collaboration avec d'autres associations, dont le CIFL, le syndicat des fournisseurs de laboratoires. Et nous avons un dîner thématique sur la génération génération Z le 6 décembre prochain, donc la transition est naturelle, puisque c'est un des enjeux aussi d'intégrer cette nouvelle génération au sein des entreprises.
Et puis cette rencontre le 11 décembre avec l'AMA, qu'est-ce que l'AMA ?
Tout à fait, donc l'AMA est notre homologue en Allemagne, donc l'association des sociétés d'instrumentation et de mesure en Allemagne. L'objectif est de favoriser les échanges et les développements commerciaux, import-export, entre les membres de l'AMA et les membres du réseau mesure.
Merci beaucoup Estelle Duflo. Sébastien Poniatowski, une minute pour conclure.
Oui, un petit mot. Alors moi c'est vrai que en tant que jeune élu, ce que je peux souhaiter, en tant que jeune maire surtout, ce que je peux souhaiter, ce que j'espère, c'est que dans les années à venir, le gouvernement fera preuve de signaux positifs à l'égard des communes, à l'égard des maires, fera confiance aux maires pour servir de relais, s'appuiera sur les maires. Moi, je pense qu'il faut redonner de l'autonomie aux communes, de l'autonomie budgétaire, de l'autonomie aussi en matière de responsabilité. C'est ça quelque part le souhait que j'ai aujourd'hui. À titre personnel, le mandat de maire, je le trouve passionnant. Et si je suis maire, c'est d'abord parce que j'aime ma ville, mais c'est aussi parce que j'ai un sens de l'engagement, j'aime le service. Et je pense que ce qu'on attend de nos dirigeants politiques, c'est d'abord de savoir servir, de savoir écouter, de savoir avoir une vision. Et c'est peut-être tout ça aujourd'hui qui manque. Et ça fait partie des solutions, je pense, voilà, pour restaurer de la concertation, restaurer de la confiance. Je pense qu'il faut ramener aussi de l'exigence dans le débat politique et dans la façon qu'ont les élus d'exercer leurs fonctions.
Merci beaucoup Sébastien Poniatowski. Merci à vous trois pour votre présence sur IDFM ce matin.
Merci beaucoup.
Demain matin, je reçois Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise et des chefs d'entreprise. Donc je vous souhaite d'ici là une belle journée. À demain. On va se quitter avec un tout petit extrait de musique, mais promis, c'est Sam Smith. Et promis, demain, je vous la repasse en priorité, en entier. À demain. Bonne journée.
It's just like that let go of like not having to be somebody that I don't want to be at that time.
It's fantasy. 100% fantasy.
Growing up in the Bronx, you have to carry this tough skin, finding Vogue. It allowed me to express myself in a way that I couldn't express myself anywhere else.
Find that inner person and you just kind of let it out.
You really can do anything in that world and be accepted. Be celebrated, not just accepted, be celebrated.
Are you drunk enough now to judge what I'm doing?
Dans les 9 instituts Thalazur, Thalassothérapie et Spa, offrez des instants de bien-être, de détente et de beauté à ceux que vous aimez pour les fêtes de fin d'année. Soins de Thalasso, avec ou sans hébergement, journée d'exception, découvrez nos formules coffrets cadeaux sur www.cadeaux-thalasso.fr ou par téléphone au 01 48 88 89 90. Idée cadeau ? Pensez Thalasso, offrez Thalazur.
Bonjour, c'est Pascal Obispo. Je suis le parrain du Téléthon 2018. Les 7 et 8 décembre, nous avons 48 heures pour accélérer les projets des chercheurs. Grâce à votre soutien, nous avons déjà vaincu des maladies génétiques, mais d'autres restent à vaincre. Les enfants et les familles comptent sur nous, rejoignez-nous. Faites un don au 3637 ou sur téléthon.fr. C'est tellement important.
La jungle envahit Enghien-les-Bains le 7 décembre. Retrouvez Alex Waki, Erwan, Nova Broken, Simone Di Parigi et un spécial guest à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains de 19h à minuit. Seulement 5 euros en pré-vente, 10 euros sur place. Rendez-vous le 7 décembre à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains à l'occasion du 35e anniversaire d'IDFM Radio Enghien.
C'est l'histoire de Christian qui vivait depuis 17 ans dans la rue. Il pensait qu'il n'en sortirait plus. Aujourd'hui, il vit dans une pension de famille où il reprend goût à la vie. Avec l'aide du Secours catholique, il a repris son destin en main. Faites vivre la révolution fraternelle. Faites un don sur secours-catholique.org.
Ne manquez pas le concert de Noël à Enghien-les-Bains. Dimanche 9 décembre, 15h, à l'église Saint-Joseph. Par les Voix du Lac et le Cœur du Relais. Au profit d'Arc-en-Ciel Enfance, pour les enfants de l'hôpital de la Croix-Rouge de Margency.
Salut, c'est Pierre Perret.
Souvenez-vous de vos moments de bonheur, de vos plus belles rencontres, de vos plus grands fous rires, des jours heureux qui ont marqué votre vie. Ce bonheur, pourquoi un jour le laisser disparaître? Pourquoi ne pas le partager? En faisant un legs au Secours Populaire, vous transmettrez ce bonheur à ceux qui en ont le plus besoin. Legs, donation, assurance vie, 01 44 78 22 37 ou secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
J'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie.
Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours.
Et si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même
des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
On est partis tous les deux pour un drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie.
Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours.
Si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Même si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
Thank you. t'arrive à tracer un chemin qui te plaît, à poser tes valises et remettre la crise à plus tard ou qui sait, à tout jamais. Je te mets en défi de me retrouver, de faire comme si on se connaissait. Je te mets en défi de t'oublier et de brouiller les radars à l'instant
un héros de ces mots
se meurt quand le ciel s'éteint. C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain, mon frère. Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire, bien plus qu'une mère qui supplie quand l'or sur ses tarifs. C'est tout notre amour qui s'éloigne, dérive et se perd, mon frère. Tout s'oublie, chacun avec sa peine, que le temps nous reprenne. Les souvenirs d'un frère, chacun avec sa peine. Le temps nous apprenne à nous aimer en frères. Bien sûr que la terre est brûlée quand la pluie l'oublie. Bien sûr que tout est gris puisqu'on se l'est jamais dit. Bien sûr l'amour puisqu'il ne peut plus grandir sans terre, mon frère. Ou bien plus qu'un dernier regard peut décider d'une vie. Bien plus que cette fin d'espoir que le courant charrie. Oh, c'est un amour qui ne trouvera pas de rire. Chacun avec sa peine, que le temps nous reprenne. Les souvenirs d'un frère, chacun avec sa peine, que le temps nous apprenne. Sera toujours que la moitié d'un tout, puisqu'on ne sera jamais que la moitié de nous, que la moitié, que la moitié de nous, mon frère. Oh.
Que tu sais.
absences et du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient.
Si elle est désarmée, me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson?
Bonjour, c'est Chantal Goya. Je vous retrouve le samedi 22 décembre entre 7h et 9h du matin sur Radio Anguin. Nous parlerons du spectacle Souliers qui volent. Alors à samedi dans l'émission Casse-Noisette. Bonne fête de Noël.
Vous connaissez le Père Noël, le Père Fouettard, Santa Claus, Saint-Nicolas? Mais connaissez-vous le Père Noël vert du Secours Populaire? Le Père Noël vert du Secours Populaire, c'est un peu celui qui répare les oublis de Noël. Il collecte des dons financiers pour aider le Père Noël rouge à offrir des jouets neufs aux enfants qui vivent dans la précarité et à inviter les familles en difficulté à des réveillons solidaires. Pour que Noël n'oublie personne, le Père Noël vert du Secours Populaire a aussi besoin d'aide. Devenez un Père Noël vert et faites un don sur secourspopulaire.fr. Merci.